Eurovision 69.
Des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison.
Eurovision 69.
Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore même.
Eurovision 69.
Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem.
Eurovision 69.
Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes.
Bonjour, bienvenue sur le podcast Eurovision 69, numéro 81, déjà, et oui.
Et oui, et oui, et les podcasts numéro 5 de la saison 6, si il faut le dire, hein. Bienvenue à Aitor de Paris.
Bonjour, c'est Fabrice Dunard.
Bonjour, c'est Farouk à Paris, hein. Farouk qui s'est totalement aitorisé pour ce spécial sélection française.
Et c'est un spécial sélection française. Bonjour, c'est Olivier. J'espère que cette fois-ci, je vais rester jusqu'au bout, hein, et pas comme dans le dernier podcast où j'ai eu un petit problème de son et lumière. Hein,
et plus rien, et le pire, carotte. C'est qu'on s'est même pas aperçu. Et c'est pas mal le montage que je me suis rendu compte.
Même pas aperçu. D'ailleurs, je vais faire un petit rectificatif parce que la dernière chanson du podcast, donc c'était sur la Tchéquie, c'était Be High on Love par Lyon qui avait gagné notre podcast sur la Tchéquie. Je disais que ça risquait de passer et là couper le son, que la phrase entière c'était ça risque de passer inaperçu à l'Eurovision, ce qui change complètement mon commentaire de la dernière fois. Bon, bref, là on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de la France.
Voilà. Et donc qui c'est qui devait parler de la France alors?
Eh ben, je vais me lancer. Donc, nous avons eu cette année, pour la première fois depuis 2014, une sélection française. Et ce n'est pas une sélection petits joueurs comme en 2014, mais une vraie sélection avec deux demi-finales et une grande finale. Ça s'appelle Destination Eurovision et c'est le fruit d'une collaboration entre France 2 et les ITV Studios, une maison de production qui produit également The Voice. C'est à l'automne qu'on nous a annoncé cette sélection, dont on nous a donné les détails au mois de décembre dernier. Les artistes ont été révélés au compte-gouttes à raison de deux par jour pendant les vacances de Noël. L'émission a été enregistrée pour les deux demi-finales les 8 et 9 janvier, pour diffusion les 13 et 20 janvier. La grande finale, elle, se déroulera en direct le 27 janvier. Et là, le public sera amené à se prononcer puisque 50% des points attribués aux artistes se feront par télévote. Dans chaque demi-finale, il y avait 9 artistes et 4 places qualificatives. Ils vont donc être 8 en finale. Est-ce que j'ai bien précisé de tout ? Non, j'ai oublié de vous préciser que pour les émissions, pour les demi-finales, les émissions enregistrées, c'est un jury de 6 professionnels, 3 français et 3 étrangers, qui se sont prononcés à raison de 12, 10, 8, 4 et 2 points. Parmi les jurés professionnels, nous avons au niveau des jurés français Amir, bien connu évidemment du petit monde de l'Eurovision, mais aussi la Québécoise Isabelle Boulet et Christophe Willem, dont le nom avait souvent été prononcé pour une éventuelle participation au concours. Au niveau des jurys étrangers, il y a la chef de délégation biélorusse, Olga Salamaka, le chef de la délégation italienne, dont je ne me rappelle plus le nom, mince, tiens un trou.
On le cherche, grave, continue, on te dira.
Et ce qui a dû être un moment d'extase pour Ethan, Christer Björkman himself, le chef de la délégation suédoise et producteur des concours Eurovision récents. Je pense que Ethan a dû évidemment être totalement fou de joie quand il a entendu que Mr. Christer allait participer à cette sélection. N'est-ce pas, Ethan?
Bah, je me suis dit que France 2 demandait enfin aux bonnes personnes pour savoir comment organiser les choses.
Bon.
Voilà, donc nous avons été amenés à voter, nous avons donné nos points, nos étoiles, cher Aitor, de 0 à 5 étoiles. Et puis nous avons aussi fait un classement en revision avec les 12, 18 points comme d'habitude. Et on va commencer d'abord par les chansons qui ont été éliminées en demi-finale.
Oui, donc c'est moi qui va commencer. Mais avant ça, je rappelle que le jury international de l'Italie, c'était Nicolas Caligiore.
Voilà, Nicolas, sans S.
C'est ça, Nicolas, qui est un copain d'Eduardo Grassi, j'imagine bien. Et moi par contre je dirais que la jury belarusse peut-être c'est pas la plus indiquée pour donner des avis, parce que c'est pas un pays qui a beaucoup de très bons classements, hein. Ça aurait été l'Ukraine, j'aurais dit que c'était mieux, mais bon, mais au moins ça fait un pays de l'Est, c'est bien que ça change. Donc voilà,
si
avec
l'éclair. Pardon ? Les votes des jurys étrangers ont été quand même assez similaires les uns des autres. Je pense que globalement il y a eu consensus.
Ouais, ça c'est pas faux. Ok, donc comme on ne voit pas que les podcasts durent plus que les mots portugais et qu'on ne fera pas assez podcasts pour la joie de certains, on va donc passer aux chansons qui ont fini dernière dans notre classement étoile, on va dire. C'est que nous on a les moins aimés, ça ne veut pas dire qu'on trouve mauvais, c'est juste que nous on a les moins aimés. Donc première ou dernière plutôt dans ces cas, c'est Jane Constance avec Un jour j'ai rêvé. Écoutez.
Les candidats suivants qui sont arrivés derniers dans notre classement, c'est les Phénomènes avec Jamais sans toi, qui se considèrent comme le premier groupe de soul français. Il y a eu les Politic Lovers avant, les gars, mais bon, c'est pas grave. Votre chanson, elle est pas mal en audio, en version studio, mais en live, c'était pas terrible.
Alors, pour la minute, monsieur Ethan.
Elle s'appelle El Enea et elle chantait I'll Be There. La chanson est super. Malheureusement, sur scène, c'était pas ça du tout. Elle a même eu du mal à garder le micro en face de sa bouche. C'est dire à quel point c'était pas au point. Et c'est vraiment dommage parce que la chanson, moi, j'aimais bien. Ceci dit, j'espère qu'on aura une autre chanson de Sonia Borasso dans le Destination Eurovision 2019. Sonia Borasso étant le vrai nom d'Enea. Et c'est elle qui a écrit ce morceau. Je pense qu'elle a plus d'avenir en tant qu'auteur qu'en tant qu'interprète.
Je voudrais tout essayer, sans limite et sans regret. Il n'y a qu'une chose que je sais, I know where I'll be.
Là, nous avons notre minute dépressive.
Ah
Sarah Gaïbo, tu me manques. Mais bon, ça dure qu'une minute, hein. Revenez dans une minute.
La pauvre.
Dis quelque chose, je n'entends rien.
Messieurs-dames. Pour moi, c'est un des coups de cœur de cette sélection française. 5 étoiles de mon côté, pas de mes amis. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas passé en finale, franchement. Pour moi, c'était, il avait tout pour passer en finale, pas peut-être pour gagner, mais il était très bien. La jeune Marine, des vrais noms du groupe Jeune d'hier, que je trouve très magique, il n'est pas passé en finale, désolé. Mais moi, je l'aime bien. On va écouter quand même la minute finale. Hein.
C'est dommage pour Dunes of War, un disque que j'aime beaucoup. Et avant de découvrir la dernière chanson écrite, composée par François Bellegreen, qui vous sera présentée par Hector tout à l'heure, qui a été éliminée lors des demi-finales, toutes ses contributions ont été éliminées, il ne doit pas l'aimer, nous allons écouter Ella, avec son titre J'ai cru, composé par Grand Corps Malade, qui est plutôt une bonne chanson, mais qui manquait peut-être un peu de peps sur la scène du concours. Voilà, c'est pour ça que c'est pas passé.
Voilà, et comme disait Olivier, composé par François Bellegreen, que je ne connais pas, désolé. Par contre, Lucie, je la connaissais bien des The Voice, et aussi un autre cas des chansons, avec 5 étoiles de mon côté, que j'adorais en version MP3, pour moi, un des meilleurs refrains de toutes les chansons de cette finale, ou demi-finale plutôt, mais qui n'a pas passé peut-être avec les fausses notes qu'il a eues dans les lives et les aigus, désolé, parce que pour moi, ces chansons auraient pu avoir un bon rôle à l'Eurovision. Mais bon, écoutons quand même la minute finale.
J'en ai envie, je
Alors, c'est la réalisation un peu du programme dont on va discuter un petit peu, et un petit peu de Garou et un petit peu de l'organisation, etc. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, donc moi je le fais en live.
La honte.
Donc moi je trouve un peu le programme un peu long par moment. Je trouve que 15 minutes entre chaque chanson, ça fait beaucoup. Il y avait peut-être une séquence vidéo en trop et peut-être la chanson d'une minute qui sert à rien. Ça, c'est mon avis. Hein. Et Garou, je le trouve excellent au niveau de la présentation. Il était sympa avec le public, hein, donc bon, il ne m'a pas gêné. Je préfère lui que Michel Drucker. Et puis voilà.
C'est clair. C'est clair. Non, mais il apporte. On sent qu'il était très content de faire cette présentation. Il apporte un certain dynamisme. Il y avait vraiment des petites étoiles dans les yeux. Il était heureux. Il prenait son pied, le petit père, j'ai envie de dire. Parce qu'au début, il a eu quelques petites hésitations. Très vite, il a su trouver ses marques. Et effectivement, c'est beaucoup mieux qu'un Michel Drucker. Enfin, il nous faut quelqu'un un petit peu dynamique pour ce type de programme. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu longuet parfois, les séances les petites chansons, les petites reprises de 2 minutes, là. Mais, par contre, je dirais quand même que, on a pu découvrir des reprises qui étaient plutôt intéressantes. J'avoue que la reprise de la chanson d'Orelsan par Egit, elle m'a vraiment pas mal intéressé. Celle de Swim aussi, qui a repris une chanson de Michel Berger, était pas mal. Et c'est vraiment les deux que j'ai retenues de ces demi-finales. Au niveau de l'organisation, de la réalisation, les plans télé, les plans caméra étaient vraiment très très bien faits. On avait vraiment l'impression d'être dans un mini Eurovision. Ils ont quand même réussi cette performance de nous donner du mouvement dans un programme où les prestations étaient assez statiques. Il y a très peu de chanteurs qui ont des chorégraphies ou qui dansent ou qui bougent. S'ils bougent, généralement, ils marchent un petit peu. Mais au non-dynamisme des artistes, ils ont répondu par un dynamisme de la réalisation. Et ça, c'est vraiment très, très chouette.
Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute après tout ce que vous avez dit, là? Alors, faut dire, chers auditeurs, que... Fabrice et Farouk ont eu la chance d'assister aux répétitions, ils étaient en VIP, dès le vendredi avant les enregistrements, ils étaient sur place, donc ils ont vu l'ambiance, effectivement. Moi, personnellement, j'ai assisté aux enregistrements. Fabrice et Farouk étaient plus derrière pour interviewer après les prestations, les artistes après leurs prestations, donc ils ne sont pas vraiment vu l'enregistrement, qui était très très long, encore plus long que ce qu'on a vu lors des demi-finales, hein, ce qui est passé à la télé, ils ont fait plein de coupes. Et Aitor et Ethan n'ont vu que la télé. Donc nos impressions peuvent différencier selon le type de mode qu'on a connu les chansons. C'est vrai que c'était très long, c'était très bien réalisé, le rendu à la télé est plutôt sympa. Je me souviens plus de la seconde demi-finale parce qu'elle a été diffusée hier, mais même au niveau des enregistrements, on l'a enregistré il y a 15 jours, la seconde demi-finale, je me souviens plus de celle-là que la première. Il y a eu beaucoup plus de coupes, j'ai trouvé. Et c'est vrai, il faut dire que le public de la seconde demi-finale était beaucoup plus éteint que celui de la première. C'était pas forcément le public, les mêmes gens. Et ça, c'est un peu vu quand même à la télé hier. Même s'ils ont réussi à faire que ça bouge un petit peu, et on voyait qu'il y avait tout le côté gauche de la scène qui n'a pas bougé. Et c'est vrai que lors de l'enregistrement, c'était une catastrophe. Ils faisaient rien du tout, ce côté gauche.
C'était les fans de Sarah Gaïbo.
Méchant. Et moi, j'aime bien Sarah, qu'est-ce qu'elle te raconte. Et j'étais pas pourtant, comme vous l'avez dit, Olivier. Et moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous venez de dire. Et j'aurais vraiment enlevé la première chanson, même si Farouk l'a trouvé certaines intéressantes. Moi, je pense que ça n'apporte rien. Vraiment, c'est un concours des chansons, pas des chanteurs. Il nous suffit d'écouter la chanson et ça aurait permis de gagner déjà un certain temps. Ça aurait été moins ennuyant parce que je trouve que sinon le reste c'était très très bien réalisé, bonne présentation. les images des jurys pendant les prestations, je pense que ça casse un peu la magie des chansons. Je comprends que pour un public français, bah, ils ont besoin de mettre quelqu'un de connu pour attirer les télévisions, comme on dit, les gens qui regardent la télé, quoi. Mais
Aitor, oui. Ils auraient mieux fait de mettre Mimi Mati, Michel Bernier, hein.
Voilà.
Je les connais pas, je suis un peu. C'est celle des Canal Plus, peut-être, que tu racontes?
Non, c'est celle.
Je connais pas les noms, désolé, mon voilà. Ignorance.
Elles étaient diffusées en parallèle sur France 3, et c'est des filles qui sont super populaires. Donc d'avoir mis ça en face de Destination Eurovision, j'ai trouvé que c'était bizarre.
Okay. C'est eux-mêmes qui se sont enlevés l'audience parce que malheureusement ils n'ont pas eu une audience extraordinaire. Mais moi j'espère que ça ne va pas empêcher de refaire Destination Eurovision parce que franchement bravo pour une première année. Moi bravo. Sinon c'est les seules choses que je dirais, enlever les chansons, peut-être même la discussion, enfin l'entretien avec les chanteurs, j'aurais fait moins court, enfin plus court, parce qu'il y a une vidéo, il y a une interview, ça fait déjà deux. Moi j'aurais fait ça, plus voir court, c'est Ethan.
Ah oui, c'était trop long. On n'a pas besoin de tout ce babla, on n'avait pas besoin de la chanson reprise, ça c'est sûr. On aurait gagné en dynamisme sans tout ça. Je suis d'accord avec Farouk, la réalisation est parfaite au plan sur les jurys prêts, donc que moi aussi j'aurais zappé. Mais sinon la réalisation à la suédoise, à la ce qui se fait en ce moment, quoi, des plans très rapprochés, très hachés, c'était vraiment bien. D'autant qu'il y avait pas de mise en scène, quasiment pas de mise en espace. Et c'est justement le reproche que je ferai à l'émission, c'est que on se rend pas compte de, sur certains titres en tout cas, on se rend pas compte de ce que ça peut donner sur la scène du concours. Or, on était là pour choisir notre représentant au concours et je pense qu'on le choisit pas forcément sur les bons critères si on voit pas, si on peut pas imaginer ce que ça va donner. Après, on n'a pas parlé d'ITV, qui est quand même le truc un peu polémique de cette sélection. Le choix de France 2, bon, ils ont fait celui-là, moi je comprends pas trop. On se retrouve du coup avec sur les 1500 officiellement titres envoyés, la moitié qui sortent de The Voice. Bon, ok. La sélection globale est pas mal, je trouve, hein.
Alors, mais... Ethan, j'ai deux petites remarques par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est que sur le format du prime time de France Télé le samedi soir, c'est généralement 2 heures minimum, voire plutôt 2h15, 2h30. Donc ce serait assez étonnant que France 2 nous propose un samedi soir quelque chose de moins de 2 heures. Je crois que le Melody Festival, c'est 1h30, hein, les demi-finales.
C'est court, mais...
Oui, non, mais c'est court, très dynamique, mais je vois mal un format comme celui-ci sur France 2. Sur les artistes qui ont été retenus, dont certains ont fait partie de The Voice, j'ai envie de dire que The Voice, c'est l'émission phare, le télécrochet phare.
Tu veux dire les deux tiers?
The Voice, c'est l'émission, le télécrochet phare. Il y a un petit peu de nouvelles stars aussi en France en ce moment, et je suis pas plus surpris que ça. Ce genre de concours, l'Eurovision, attire immanquablement des gens qui ont déjà participé à des télécrochets. Et je suis pas surpris qu'il y en ait eu autant que ça. Est-ce que vraiment le fait que ITV était dans la production, ce qui a fait qu'on a choisi beaucoup de gens de The Voice, je suis pas convaincu du tout par ce type d'argument. Je pense qu'ils ont essayé d'avoir quelque chose qui est assure une certaine diversité, même si on peut regretter qu'il manque du hip-hop, mais bon, ça ne marche jamais à l'Eurovision. Du rock, ça peut marcher à l'Eurovision. C'était les deux styles de musique qui manquaient pour avoir un programme réellement divers.
Je vais te rejoindre sur ITV. Oui, je pense qu'ils ont pris l'émission qui marche, la boîte de prod qui fait l'émission qui marche le plus en ce moment, qui est The Voice. Je pense que c'est pas étonnant. Et bon, ils avaient un vivier d'artistes potentiellement je sais pas, qui seraient potentiellement admirés par le grand public, donc voilà, je ne suis pas gêné là-dessus. Maintenant, je pense que la minute, je suis d'accord aussi que la minute des covers n'était pas indispensable, mais pour nous qui sommes fans, qui avons écouté les petites pastilles des chansons, effectivement, c'était pas indispensable, mais pour, je pense, 90% des gens qui ont regardé l'émission, c'était des artistes quasiment inconnus, mis à part peut-être un ou deux. Nassi qui avait fait un gros tube cet été, ou Lisandro qui venait de gagner
The Voice. Il y avait encore un peu peut-être Edith ou Swin qui avait fait le truc, mais la plupart des artistes sont inconnus du grand public. Je pense que le cover d'une minute, c'était pour permettre aux gens de s'approprier un peu des artistes, parce qu'ils allaient en plus chanter des inédites qui n'avaient pas été entendues en entier par le public. Donc c'était peut-être pour s'approprier les artistes.
Oui, mais ça biaise le choix du coup des téléspectateurs. Oui.
Il n'avait pas de choix à donner.
Non, pas là, mais j'imagine qu'on va avoir le même format pour la finale.
Ah, pas sûr.
Ouais, pas sûr, on verra bien.
Bon. C'est très intéressant ce que vous dites, messieurs, mais on a encore beaucoup à parler, à beaucoup à montrer dans ces podcasts. Je vous invite à vous taire un petit peu. Non, c'est pour que on va passer déjà aux chansons qui ont été un petit peu mieux classées, qu'on va entendre en entier. Et on va tous parler, ok? Ok, messieurs, oui.
Oui.
Ok.
Ça marche.
Avant de vous parler des 8 finalistes de ce Destination Eurovision 2018, on va vous présenter 3 chansons que nous, on aurait bien mis en finale. On commence avec Swim, qui est donc 8e de notre classement. Swim, c'est un des repêchés de The Voice, justement. Il est venu tenter sa chance avec Là-haut, et c'était très, très beau, je trouve. Sur la base des seules versions studio, ça aurait été mon favori, je pense. En live, je le mettais que 3e sur les 18. Pas que lui soit moins bon que prévu, mais de prestations m'ont plus bluffé. Et si j'adore cette chanson, j'étais pas convaincu qu'elle puisse fonctionner à l'Eurovision. D'ailleurs, les jurés internationaux, c'est eux qui l'ont sorti. Pas que le style ne puisse pas plaire ailleurs, mais je trouve que les mots sont en l'occurrence importants quand on repère une petite variation de ci, de là, quoi.
C'est juste. Et c'est tout à fait ça. Et j'ajouterais que... il a beaucoup de tatouages. Et sur son compte Instagram, vous pouvez voir toutes les parties de son corps en tatouées. Voilà.
Alors, bien sûr, quand j'ai vu les 5 points donnés à Ethan, quand j'ai entendu qu'il trouve que c'était très très beau, je soupçonne notre Ethan d'avoir voté aussi notamment sur le physique. Parce que Swim, c'est le beau gosse de cette sélection française. Il a beaucoup de charisme, il accroche les troncs, ça c'est évident. On voit tout de suite ses tatouages. D'ailleurs, c'est très pratique quand on veut pouvoir régler son appareil photo pour faire des clichés. Vraiment, ça c'est parfait. Sur la chanson, moi j'ai des réserves. Je trouve que ça n'accroche pas. Et le choix du jury international, qui effectivement n'a pas voté pour lui, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à accrocher la 4e place qualificative, ne me surprend pas plus que ça. Il manque quelque chose. C'est très franco-français et quelque chose qui a peu de chances de séduire les non-français.
Bon, moi, je demandais à parler avant Farouk parce qu'il pique toutes mes répliques. Hein. c'est pas possible. Donc oui, j'allais dire que Swift, c'est quand même la minute, enfin, ce sont les 3 minutes beau gosse du programme. Hein. J'avoue que quand il est arrivé sur scène pour se présenter, j'ai fait un grand « Waouh !»
Non mais Olivier, c'est simple, hein. Tu le mets à l'écran, tu coupes le son et les minets et les minettes soupirent pendant 3 minutes.
Oui, mais j'ai soupiré pendant 3 minutes. Voilà, il a des beaux tatouages, c'est partout. Enfin bon, il est parfait, physiquement. Au niveau de la chanson, que j'aime beaucoup, si je rejoins Ethan sur ce point-là, j'aime beaucoup la chanson. Mais je te rejoins aussi, Farouk, je suis pas sûr qu'elle... C'est peut-être pas forcément une chanson pour l'Eurovision. Ça aurait pu avoir sa place en finale. Ça aurait dû avoir sa place en finale, mais bon, peut-être pas pour l'Eurovision. C'est vrai que c'est une bonne chanson. Fabrice, tu disais que sur son compte Instagram, on voyait ses tatouages partout. Dans un de ses clips que j'avais à la base sélectionné pour le concours vidéo de l'année dernière, ou il y a 2 ans, sa chanson Tu trembles, on voit furtivement, mais une demi-seconde, un petit bout de kiki.
Ah bon?
Moi je dis ça, je dis rien.
Et tatoué?
Non, le kiki, je sais pas s'il est tatoué. Non, mais c'est... Mais voilà, mais bon, on le voit de dos marcher, la caméra est en contre-plongée, donc voilà, la caméra se met en bas, juste derrière les jambes, et bon, soit il a les mains entre les deux jambes pour marcher, soit c'est un bout de doigt, soit c'est un bout d'autre chose.
Bon, je vais parler parce qu'il restait très peu de temps, juste dire la seule chose à laquelle je suis d'accord, vous allez halluciner, c'est... Quand tu as dit Farouk que c'est un truc hyper franco-français, que les internationaux ils vont pas adhérer, ben voilà, la preuve c'est que moi je les donnais très peu de toi, je vais pas par rapport à vous, c'est hyper étonnant que ça arrive, vous le savez bien, et c'est la preuve que peut-être c'est que, et pourtant je suis moitié français dans mon cœur, mais bon, voilà, on écoute la minute finale avec tout le respect suivi, mais voilà.
Pas de voile, là où l'on voit, l'on ressent. Laissez-moi viser là-haut, laissez-moi me glisser là-haut, là où il y a les étoiles, là où l'on voit l'océan. Laissez-moi viser là-haut.
Et je vais maintenant vous parler de Mazoé. Son vrai nom c'est Kevin Duarte et il est d'origine portugaise. Il habite à Pau et puis comme il est passionné de musique, il a fait comme beaucoup de gens qui sont de province. Il est monté s'installer à Paris il y a 4 ans. Et donc, on va dire qu'il court un petit peu les castings. Il a notamment tenté celui de The Voice, mais il n'a pas été retenu. Donc, il vivote et puis il s'est fait remarquer par Danny Sinté, le producteur du moment. Et Danny Sinté lui a mitonné un titre très dansant qui s'appelle Paradise. Quand j'ai entendu Paradise pour la première fois, je me suis dit, Danny Sinté, il s'est pas foutu de notre gueule. Je trouve que la chanson est hyper actuelle, très accrocheuse. Il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce titre-là, et pourtant ça n'a pas fonctionné. Alors, je dirais qu'il y a, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné à ce point-là. Je pensais quand même qu'il aurait pu gagner plus de points qu'il n'en a eu. Je pense qu'il s'est fait d'abord un petit peu vampiriser par Lisandro Cuxi. Je pense aussi que au niveau de son jeu sur la scène, c'était très désagréable à regarder. Il n'arrive pas à bien tenir ses bras. Et donc, il vole un petit peu sur la scène. Et on remarque tout de suite ça. Et Amir, d'ailleurs, même lui a fait remarquer. Mais malgré ses défauts, le titre est quand même super accrocheur. Moi, j'ai première écoute, c'était waouh. Et pour moi, il fait partie de mes chansons préférées de cette sélection Eurovision.
Pas du tout. Non, mais je suis pas du tout accroché. Je suis le seul à avoir donné une seule étoile. Vous avez très bien noté. Moi, j'ai pas accroché. Je dis pas que c'est une mauvaise chanson, mais je l'oublie très rapidement. C'est pas. Je n'irai pas acheter le CD. J'irai pas acheter la musique. J'irai pas la télécharger. Moi, j'ai pas du tout accroché. Voilà, même si je trouve pas le titre forcément désagréable, mais c'est pas mon truc. Après, oui, sur la scène, le soir de la première demi-finale, bon, c'est vrai qu'il ouvrait le bal. Il a jamais fait de scène. Il ouvrait le bal, même si c'était un enregistrement, bon, c'est tourné dans les conditions du direct, ou presque. Il faut se lancer. Donc, il avait peut-être le track. C'est vrai que son jeu de scène, c'était super, je suis d'accord avec toi, c'était super désagréable à regarder. ce qu'on a vu à la télé était plus agréable, mais quand on le vivait, qu'on avait l'image statique, c'était super désagréable. On n'en pouvait plus, quoi. Son mouvement de bras qui n'a pas arrêté de son moulinet, là, il l'a fait tout le temps pendant 3 minutes. Moi, je comprends que ce soit pas passé, quoi. Peut-être effectivement Lisandro Cucci qui est passé après la vampirisée, oui, certainement. Et puis c'était pas juste. C'était pas très juste au niveau de la voix et de l'intonation. Donc, non. Il y avait effectivement 4 ou 5 autres candidats qui ce soir-là ont mieux chanté que lui. C'est normal que ça soit pas passé. Mon avis.
Bon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve très, 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 très dommage qu'il ne soit pas passé aussi. Je suis d'accord que c'est par les raisons que vous avez données, c'est ça. Moi, je trouve dommage, vous allez rire, ou pas. qu'il soit pas allé à Opération Triomphe en Espagne, parce que ça, il aurait tellement bien expliqué comment se tenir sur scène, que celui-là, il aurait été un super bon candidat pour la France, parce que la chanson, en MP3, c'est sans doute une des meilleures, et pour moi, enfin, internationalement, on peut vendre à l'international, c'est joli, c'est bien chanté, tout. Mais c'est la manière de se comporter sur scène, c'était pas bien. Et ça, on peut l'éduquer. Mais bon, Ethan?
Ben, vous avez tout dit. Une des meilleures chansons, un live trop approximatif. Moi, je trouve en plus qu'il a une voix un peu trop perchée, en tout cas pour ce titre. Mais enfin, c'est dommage, quoi.
Vous avez dit pas mal de choses intéressantes. Je sais que Mazoué nous écoute parce que moi, il nous a dit moi, je regarde tout ce qui se dit sur moi. Voilà. Donc, on va lui dire qu'on l'aime beaucoup, qu'on a hâte de le voir l'an prochain. Mais il y a quelque chose que Dany Saint-Pied a dit en partant de l'émission, de l'enregistrement. J'entends un grisou. Et il a dit il faut qu'il bosse, tout simplement. Et c'est ça, il est jeune, vous savez, il a notre âge. Et
c'est ça. Il est plus jeune que nous, hein.
C'est sa première télé, et puis bah, il va bosser, et puis il y a beaucoup de... c'est un bon gars.
Non, mais c'est vrai qu'on voyait énormément la différence entre ceux qui avaient déjà fait la télé, des émissions de télécrochet, et ceux qui, comme lui, Mazoué, étaient novices dans l'exercice, et ça a joué, effectivement dans le rendu final. C'est pas, voilà, s'il avait eu l'expérience de Lisandro qui a fait toutes les saisons de The Voice, peut-être qu'il aurait justement mieux géré tout son stress et toute sa mise en scène. Voilà, c'est juste de l'expérience qui manque.
Si j'ai l'occasion de mixer à Lisbonne au cours des soirées Eurovision, je mettrai évidemment Paradise et je suis sûr que ça va mettre le feu au dance floor.
Oh, oui, je pense.
Bon, on est tous d'accord sur ça. On a parlé déjà 6 minutes sur Mazoué qu'on aime bien, mais il faut qu'on continue le podcast. Donc on va écouter la minute finale.
Et je m'ennuie d'elle. Le jour se lève et je m'ennuie d'elle. Et je m'ennuie. Et je m'ennuie sans elle. Elle sait. Elle sait. J'espère. Je serai son repère.
Certainement l'une des plus belles musiques de ce Destination Eurovision, c'est la petite Noé qui nous chante l'un près de l'autre. Une petite valse pour cette ex-finaliste de Nouvelle Star. C'était magnifique. Bon, maintenant c'est sûr que ça n'a pas forcément sa place dans un concours, mais c'était bien d'avoir proposé ce titre à Destination Eurovision.
Ben oui, parce que si notre ami Swim était le beau gosse de cette sélection, Noé, elle, était incontestablement la jolie nana de cette sélection. Elle est superbe, elle crève l'écran, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. C'était doux, c'était charmant, une jolie petite valse. Franchement, ça m'a fait du bien. Et puis, il y a un refrain qui devient entêtant, on s'en rappelle. Je suis convaincu qu'au télévote, elle serait passée. Je pense que le public français aurait voté pour elle et lui aurait permis de passer cette marche qui l'aurait emmenée en finale. Vraiment, je trouve que le jury français a été sévère en lui donnant très peu de points. Et c'est là qu'on voit quand même qu'un jury professionnel est souvent aux antipodes des goûts des publics. Et même moi, je continue d'écouter l'un près de l'autre sans aucun problème. Ça fait partie de ma playlist.
Oui, ça fait aussi partie de ma playlist. Je suis d'accord avec vous. Cette chanson serait passée si le public avait voté pendant les demi-finales. Quand on l'a découvert lors de l'enregistrement, donc c'était la seconde candidate, la deuxième candidate. La chanson a eu un succès énorme. Certainement l'une des plus gros applaudissements lors de cette demi. Et quand il récapitulatif à la fin, là, pour permettre aux gens de se remémorer un peu les chansons, au moment du replay, c'est celle qui a été le plus applaudie vraiment. Et je crois qu'elle a vraiment, elle a vraiment fait plaisir aux gens. Elle a touché tout le public qui était là. Peut-être pas pour l'Eurovision, mais elle avait au moins sa place pour dans la finale. Elle aurait eu sa place dans la finale.
Ok. Et je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Peut-être le problème c'est que ça faisait un peu trop classique. Même si les classiques, ça marche des fois très bien, comme pour le Portugal. Hein. Mais si je regarde les jurys, c'est Isabelle Boulay, justement, qui est surprenant. C'est surprenant parce que ça aurait pu être elle qui l'aurait le plus voté. Bah, c'est elle qui n'a pas voté. Oui, Christian William, à la limite, non plus. Mais les jurys internationaux, comme l'italien et les biélorusses, ils sont beaucoup, enfin, beaucoup aimés. Moi, je aime beaucoup aussi, comme vous. Ethan.
Alors, je reconnais que la prestation était très bien. Moi aussi, je la mettais en finale par élimination, par contre. La chanson est quand même sans intérêt. C'est une vieillerie, ce truc. Ma sœur, avec qui j'ai regardé la première demi-finale, m'a dit « Oh, on dirait l'Autrichienne qui parlait français
».
Voilà, c'est du même niveau, ça apporte rien. Alors, bien sûr que les Eurofans aiment ce genre de chanson. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être représenté par ça.
Pardon, Ethan.
Je reconnais que la prestation était très belle. Hein.
Y a pas que les Eurofans, elle a très bien marché au télévote. Hein.
Zoé, oui.
Ah ouais, mieux qu'Amir.
Mieux qu'Amir, ouais.
Oui, c'est
vrai. Oui, j'ai jamais aimé Amir, alors.
D'accord, mais si on choisit une chanson et qu'au télévote on est 8e, je signe tout de suite. Hein.
C'est bon. On a fait les tours ou pas, messieurs?
Oui.
On a fait le tour. Bah, on va profiter pour écouter cette magnifique chanson de Noé, l'un près de l'autre, la minute finale.
L'un près de l'autre, comme à l'automne, on s'abandonne quand la lumière s'en va. Quelle est cette voix qui nous entraîne à renoncer sans regarder l'un vers l'autre? Si c'est un choix, il faut qu'on s'aime sans se lasser pour se garder. Près de
sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence.
Et avant de parler des 8 finalistes de Destination Eurovision que vous verrez donc le samedi 27 janvier, nous allons parler un peu des jurys. Farouk vous en a parlé des jurys des demi-finales en présentation. Donc, je vous rappelle, Amir, Isabelle Boulet, Christophe Willem pour la France, Christian Björkman, Nicolas Caligliori, Olga Salamka pour la Biélorussie. Pour la finale, ils seront le jury français ne sera qu'à titre consultatif. Les votants, ce sera nous et le jury international qui seront pas 3 mais 10. À Christian, Nicolas et Olga se rajouteront Ivan Katsarev pour la Bulgarie, Iveta Mukuchian pour l'Arménie, Reto Peritz pour la Suisse, Sergei Pavlov pour la Russie, Tali Escoli pour Israël, Terry Novasto pour la Finlande, Félix Bergson pour l'Islande. Ça, c'était pour le jury. Sur ce qui s'est passé dans les demi-finales, j'ai trouvé Christophe Willem très bien, très juste dans ses propos. Isabelle Boulet, très gentille et parfois un peu dans un monde de bisounours. Amir était là pour dire son expérience. Il y a eu beaucoup de coupures par rapport à ce qu'on a vu à la télé. Et sur la seconde demi-finale, j'ai trouvé Amir, je suis désolé, mais très méchant. Avec plusieurs des artistes, ça ne s'est pas vu à forcément à la télévision, mais à l'enregistrement, c'était, il a franchement dit des choses horribles. Sur les jurys internationaux, ben, bien sûr, ils ont aimé, hein, mais ils n'allaient pas dire le contraire. Et puis, dans leurs résultats, et ben, voilà, on voit vraiment un vote international et un vote plutôt français. Voilà, je m'arrête là, je laisse mes copains parler, parce qu'il faut faire vite.
Qui c'est qui aura dit ça? je sais pas trop quoi dire. Mon expérience sur l'Espagne me dit que c'est difficile de trouver des jurys qui soient justes parce qu'ils sont souvent des liaisons entre les maisons des disques, etc. Ou parce qu'ils sont travaillés ensemble, travaillent pour la même maison des disques, compositeurs, les chanteurs. Donc, je savais pas jusqu'à quel point ils étaient sincères par rapport à leur vote ou c'était parce qu'ils travaillaient ensemble, etc. Non, par exemple, je dirais pas parce que j'ai pas envie d'accuser qui ni quelle chanson, mais ça m'a surpris quelques votes, quoi, parce que ils sont tellement.
Tu parles du jury français, hein.
Je parle du jury français, évidemment. Pour les étrangers, je crois qu'ils sont pour le coup assez sincères. Voilà, ce que j'ai à dire. Mais bon, sinon l'idée d'avoir mis des jurys nationaux et internationaux, je les trouve très bien. Tan.
Sur la première demi-finale, moi j'ai trouvé Isabelle Boulet très drôle parce qu'elle cherchait à être gentille quand elle aimait pas et ça se voyait tout de suite qu'elle aimait pas et elle trouvait le truc à dire qui voulait pas dire qu'elle avait pas aimé mais on sentait bien qu'elle avait pas aimé. Donc voilà, ça c'était sympathique. Christophe Willem, je l'ai trouvé très bien les deux soirs. Ah oui, et Isabelle Boulet le deuxième soir par contre elle avait l'air de s'ennuyer, hein. Elle disait plus rien, enfin plus rien de drôle. Donc Christophe Willem très bien les deux soirs. Amir, j'avais envie de lui taper dessus à la fin de la deuxième demi-finale et c'est ce que j'ai dit à Olivier pendant la diffusion. Le point positif, c'est qu'en finale, au moins, il votera pas.
Oh là là.
Je ne sais pas dans quoi vous avez vu qu'Amir avait dit des trucs méchants. J'ai pas le souvenir de ça du tout.
Ah si si. Ah si si. Il est descendu Sarah Caibo. Grosso modo, il a dit qu'elle faisait la merde et qu'elle ne savait pas composer. Enfin, qu'il faudrait peut-être qu'elle apprenne à composer une chanson.
Sérieux ?
Ça n'a pas été dit à la télé. Oh.
Ouais, j'avais le souvenir qu'il avait dit « Je pense que c'est un Eurovision d'un autre temps. »
Oui, non, mais elle était pas très bien sur scène. Enfin, elle n'était pas très à l'aise. Non, franchement, il a été très, très méchant avec elle. Il y a un autre artiste, il a été... je crois que c'est avec Lucie aussi dans la. Je crois que c'est avec Lucie. Il n'a pas été très tendre.
Ok. Bah, en tout cas.
Enfin bon. Ouais. Ça s'est pas vu à la télé. Bon, voilà.
Sur les membres du jury, moi je pense qu'Isabelle Boulet, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, tout simplement. Moi j'avais pensé tout de suite à Loïc Noté, mais peut-être qu'il n'était pas disponible. Peut-être pour l'an prochain.
Il fallait une femme.
Ah oui. Je sais pas.
Bon, je dirais que sur les jurés professionnels, on peut dire beaucoup de choses. Je suis comme Ethan, j'ai trouvé que Christophe Willem était sans doute le plus intéressant. Je pense que c'est le plus cash et celui qui a été peut-être le plus percutant dans ses remarques. Amir s'est toujours trouvé le mot juste. Il a été bon dans la première demi. Et effectivement, dans la deuxième demi, j'ai l'impression qu'il a voulu être aussi cash que Christophe Willem. Mais peut-être que ses remarques pouvaient être compliquées à entendre pour les artistes. Isabelle Boulay, moi j'ai trouvé un petit peu en retrait par rapport à tout. C'est vrai que des trois jurés, c'est sans doute celle que je trouve avait le moins à sa place dans ce jury français. Sur le jury étranger, je remarque que sur les six jurés, c'est Christer Borkman qui est le seul à avoir deviné les huit qualifiés dans son vote. Ah oui. ce qui montre quand même que ce type-là, même quand il vote en fonction de ses goûts, il arrive quand même à faire ressortir les chansons qui ont le mieux marché. Je trouve ça assez intéressant lorsqu'on analyse le vote de chaque juré. Donc c'est une belle initiative, moitié français, moitié étranger. Après, le fait d'avoir fait l'Eurovision comme Amir ou d'avoir fait des albums comme Isabelle Boulay et Christophe Willem ne montre pas que vous avez la science infuse. Vous pouvez vous tromper comme tout le monde. Et voilà.
Oui. Petit commentaire, moi je pense que c'est pas non plus nécessaire d'aimer des jurys qui disent qu'est du bon en fait, parce qu'en même temps ils sont là pour juger, sinon on les enlève. Donc soit ils disent rien, ils donnent les notes, s'ils doivent donner leur avis, c'est normal qu'ils critiquent aussi. Mais après, c'est les manières. Après, comme j'ai pas entendu ce qu'a entendu Olivier, je sais pas s'il était vraiment méchant à la télé. Évidemment, ils ont choisi les morceaux peut-être les plus normal, quoi. Écoutez, c'est pas plus de respect. À la télé, ça m'a pas donné l'impression de quelqu'un de méchant, Amir. Ça a quand ses goûts, en fait. Tu peux comprendre qu'il aime une chanson plus que l'autre. Et quand ils ont dit que quelqu'un.
Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, il a été à la même place que parce qu'il a fait The Voice donc il a aussi connu les problèmes, peut-être les premières compositions qui sont pas terribles. Christophe Willem, comme Isabelle Boulay, pour la première demi-finale, quand ils aimaient pas, ils l'ont dit. Mais ils l'ont dit avec certains tacts, et ils l'ont dit vraiment en faisant un argumentaire et des choses.
C'est quoi, je vois ce que tu veux dire. Avec l'empathie réaliste. Avec les chanteurs. Si tu lui dis, voilà. C'est dommage, t'as bougé les bras, mais la prochaine fois, tu peux regarder à bouger les bras comme ça. Ou t'as chanté faux, bah alors tu danses un petit peu moins. Si tu les dis comme ça, tu lui dis, mais tu chantes bien, là, vraiment, ça passe mieux, en fait. C'est ça.
Ils étaient en empathie, en fait. Ils n'étaient pas là pour dire, moi, je sais, j'ai de l'expérience, deux ans, et tout ça. Enfin, bon.
Mais il y a des remarques
même ton, quoi, sur clairement.
Les artistes, à un moment donné.
Je suis désolé, mais moi, je trouvais qu'Amir était très bien. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, qui choisit parfaitement bien les mots. Il vise juste, la plupart du temps. Les remarques qu'il a faites étaient, je trouve, constructives. Après, tu participes à cette émission, tu connais le système, tu sais qu'on va commenter ta prestation et que ça peut ne pas être quelque chose qui va être dithyrambique. Hein. Tu peux avoir des critiques et heureusement, il y en a eu parce que sinon, ça aurait été chiant. Moi, je pense que les trois se sont très bien complétés et Amir a d'expérience de l'Eurovision malgré tout. Il sent certains trucs. Sur certains de ses votes individuels, j'ai été surpris, je l'avoue. Mais je me suis interrogé. Bon, mais c'est vrai que c'est assez amusant de voir Amir juger la prestation. Je crois que c'était cette Digit. Ils ont fait The Voice la même année, c'est ça
hein. Oui.
Donc il y en a un qui a gagné The Voice, qui deux ans plus tard est juré, et l'autre qui n'a pas gagné The Voice et qui deux ans plus tard est toujours jugé et jugé par celui qui a gagné deux ans qui a gagné. Donc c'est
il avait très pas amusant. Gagné, hein, Amir.
Participé. Pardon.
Oui, c'est Kenji Girac qui avait gagné.
C'est Kenji qui avait gagné. Mais c'est vrai que c'était drôle. Ils ont été collègues de The Voice et puis maintenant il y en a un qui est juge et l'autre qui est jugé.
Mais tu vois, quand il a dit à June the Girl que sa chanson, il fallait savoir se démarquer à l'Eurovision, que sa chanson ne se démarquait pas assez, j'aime beaucoup, j'ai cherché, hein, mais en quoi elle se démarque? Elle se démarque,
oui,
et oui, c'est un truc super original.
Ah, moi je suis pas du tout d'accord. June the Girl se démarque pas du tout. Hein. Et pour moi, justement, cette chanson-là, elle est très bien pour être écoutée en radio. Elle me fait penser un peu aux chansons allemandes qu'on a eues à l'Eurovision ces dernières années. Des chansons qu'on peut apprécier, mais qui ne seront jamais dans les top 10 et qui, au final, seront dans le bottom 5 du concours. Alors, moi, June the Girl, je ne juge pas la qualité de la chanson. Je pense que c'est une chanson que tout le monde peut globalement aimé, mais personne ne lui mettra des 12. Et pour gagner l'Eurovision, il faut des 12.
Oui, oui, d'accord. Mais dis pas que il faut... s'il avait eu une chanson super originale, j'ai cherché, c'est une très bonne chanson pop, très bonne chanson de variété ou pop, mais c'est pas un truc original comme Jamala, comme le portugais de l'année dernière, il n'y a pas ce truc super original. C'est une chanson de variété pop qui est très bonne, qui fonctionne très bien, mais voilà, quand tu as fait une chanson qui est dans le même style que celle, même si voilà, elles ont des qualités, des défauts et des qualités complètement différentes, ne dis pas ça, quoi. Enfin,
surtout,
vous marchez, vous êtes dans la même équipe presque. Dis pas qu'il faut un truc original alors qu'il a pas fait lui un truc original.
Non, juste, je rajoute un petit truc en fini. J'ai dit, il a dit original, Jane Degas n'était pas original, du coup je te vote pas, et il a donné des points à Jane Constance qui avait une chanson ancienne, non. Enfin, encore plus ancienne que les mots anciennes. Mais bon, après, chacun ses goûts, hein, et on respecte. On écoute les 10 dernières secondes de cette magnifique chanson de Mom, c'est merveille, et on va voir si on boit un temps de merveille. De la sélection française.
De t'aimer.
Nous l'avons classé dernier de notre classement pour la finale. C'est Luca et Mama Mia, une chanson écrite par notamment Maître Gims et Vita. Je veux dire d'extraordinaire, bah c'est sympa que Maître Gims et Vita aient passé un peu de temps pour nous écrire une petite chanson. C'est très bien, c'est vrai, c'est très sympa pour eux. Et,
ils ont pas dû en passer beaucoup quand même.
Et bah, je trouve que ça se tient quand même, et ça a sa place en finale, et puis voilà, je suis content pour Luca. Ouais.
Ben moi, sa place en finale m'a étonné. Je trouve que le titre est pas suffisamment marquant, pas suffisamment fort. C'est clairement le vote d'Amir qui lui a permis d'accéder à la finale. C'est bizarre, autant je trouve que Swim est un beau gosse qui crève l'écran, autant Luca est un beau gosse qui lui crève pas l'écran. Oh, je si. Trouve, bah, je suis désolé, je vous donne mon avis, hein. Je trouve renfermé, voire taciturne. C'est difficile de le voir sourire. Et quant à la chanson, même si je sais que ça correspond à ce qui se fait en ce moment, c'est pas du tout ma cam, quoi. Vraiment pas du tout. Ça fait partie de ces chansons que j'écoute pas. Elles sont pas dans ma playlist. Mais je reconnais que c'est très bien produit. Et bon, après tout, si on veut toucher un peu du jeune, c'est peut-être ce type de chanson qu'il faut mettre à l'Eurovision.
C'est pas non plus dans ma playlist. D'ailleurs, il y a deux chansons de cette sélection, les 18, hein, que je zappe dès que ça commence, et c'est une des deux. Non, j'arrive pas du tout avec cette chanson. Je préférais son titre d'avant qui s'appelait Gamma, je crois. Enfin, il a sorti un autre titre que j'aimais bien, mais là, dans ce titre-là, j'aime pas du tout. Bon, en plus, c'est vrai que j'ai peut-être un a priori sur Maître Gims, donc enfin, un a priori un peu fondé quand même, hein. C'est vrai que tout ce qui vient de lui, en général, j'aime pas.
Ah, tu n'es pas sapé comme jamais.
Non. Moi, les propos homophobes, que bon, à l'époque, il était avec son groupe, que lui préfère voir des pédés morts. C'était son kiff, enfin bon voilà, moi j'accroche pas du tout. Donc je sais pas ce qui. Enfin voilà. Bon. Maintenant sur la chanson de Luca. Bref, la prestation en elle-même, peut-être que la chanson effectivement est une des plus actuelles, qu'elle plaît aux jeunes, tout ça, mais c'était plat, c'était mou. Il a pas chanté très juste, mais voilà, il a beaucoup bougé. Mais ça prenait pas. C'est une chanson qui n'a pas pris, ça n'a pas pris de public, ça n'a pas. Il n'y avait pas de punch. Ce qui est dommage, c'est une chanson qui est punchy, mais la sauce n'a pas pris. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Bon. Donc.
Allez.
La chanson est actuelle, certes, mais moi, ça m'étonne que ce soit passé, parce que ça n'a pas pris.
Bon, désolé, Olivier, mais je me permets d'être un peu méchant parce qu'il ne faut pas qu'on parle 7 minutes, 9 minutes sur la chanson. 1 minute par chacun. Pour chacun. Les Lucas, je trouve qu'en fait, la chanson, pour moi, il n'arrive pas à décoller parce que pourtant, je pense qu'il parle d'un très bon compositeur. Et j'ai juste que le refrain, j'ai l'impression que ça fait couplet. Et on attend quelque chose qui va exploser qui n'arrive jamais. Et c'est pour ça que la chanson, pour moi, il restait en mi-chemin, mais sinon, c'était bien parti. Et sinon, Lucas, désolé, mais en live, il était très nerveux, j'ai l'impression, et il n'a pas si bien chanté que je m'attendais sur l'MP3. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a fini dernier de notre podcast, peut-être à notre classement. Stan,
bah moi je le trouve plutôt sexy, c'est tout ce qu'il sauve. La chanson est affligeante. Grâce aux 10 points d'Amir, France 2 pourra mettre Maître Gims dans les teasers pour la finale, et il n'y a là aucun sous-entendu sur l'intégrité du jury.
C'est bon, on a fini. Bon, bah, mamma mia, hein, mamma mia, est-ce que vous venez de dire? Et on va écouter la minute finale pour cette chanson.
Tu sais bien que tout est possible si cette fille-là m'a pris aussi, mais je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, je ne sais pas comment. Tu sais bien que tout est possible si cette fille-là m'a pris aussi, mais je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, je ne sais pas comment. Tu sais bien que tout est possible si cette fille-là m'a pris aussi, mais je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, je ne sais pas comment. Tu sais bien que tout est possible si cette fille-là m'a pris aussi, mais je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, je ne sais pas comment. Hey, 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 comment je vais pouvoir m'en sortir, je veux pas tomber, tomber. Hey, hey, oh mamma mia, hey. J'ai plus quoi faire, elle m'attire, non je veux pas tomber, tomber, tomber. Oh mamma mia, hey, hey, hey. Comment je vais pouvoir m'en sortir, je veux pas tomber.
Il s'appelle lui Max Cinnamon, il n'a pas 12 ans mais 16, c'est pas mal du tout. J'y croyais pas au départ, hein, un ado avec une guitare, et puis en fait ça marche. Il nous amène avec lui dans ses rêves d'ado et on est surpris.
Fabrice.
Ah oui, il faut savoir que Max Cinnamon, même s'il était inconnu du côté de la production, il ne l'était pas, puisque Bruno Berzerès nous a dit que il le voulait pour The Voice et Max a refusé. Et dans l'entourage de Max Cinnamon, nous avons, donc je sais pas si vous connaissez, Nathalie Naonek, celle qui avait fait jurer de la Nouvelle Star cette année. Donc il y a du beau monde autour de lui. On est content pour lui.
Ouais, non, c'est le Benjamin de cette sélection. Faut quand même dire qu'il n'avait jamais connu les plateaux de télévision. Et j'ai trouvé qu'il était très à l'aise, comme chez lui. À la différence peut-être de Mazoé, par exemple, lui, il n'a pas été gâté par le stress. Il est allé franco, il a une bonne bouille. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une chanson à l'Eurovision, ça doit plaire à la première écoute. Et là, visiblement, cette chanson, elle a plu pratiquement à tous les jurys dès la première écoute. Il y a quelque chose sur ce titre. Je vois en Max le l'outsider de cette sélection française. Il peut créer la surprise.
Alors, je vais faire je vais vous raconter une petite anecdote qui donnera un petit peu aussi mon avis sur la chanson. Donc, lors de l'enregistrement, il arrive, il est tout jeune, il est tout frais, il est un petit peu interviewé par Garou, voilà, qui lui demande ce qu'on n'a pas vu à la télé, mais pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Il a dit, ben, pour les filles, hein, pour draguer les filles, et ça marche très bien. Enfin, bon, bref, c'était très sympa. Il fait sa chanson, il finit la chanson, et là, des 18 candidats, sur les deux demi-finales, des 18 candidats, c'est celui qui a été les plus longs applaudissements, ça a au moins duré 3-4 minutes, mais c'était dingue, et même à tel point que Garou et le jury n'ont pas parlé, ils ont laissé profiter le gamin du truc qui se passait, quoi. C'était un truc de dingue. Et moi, il y avait Stéphane Schiff, le président d'Eurofan, à côté de moi, et il me demande mon avis. Je fais, mais c'est de la. Enfin, j'ai pas dit c'est de la merde. Je fais, non, mais franchement, cette chanson, mais je comprends pas. Aussi vite entendue, aussi vite oubliée, c'est mauvais. Il me dit, oui, mais ça risque de. Ben, j'ai dit, ben, je vois, mais c'est. Non, mais c'est pas possible. Ça me fait penser à l'espagnol de l'année dernière, là. C'est exactement pour moi la même chanson. C'est aussi vite oublié. Et, mais comme. C'était, il y avait énormément d'applaudissements, je parlais un peu fort. Et je lève la tête. Et là, pratiquement collé à Stéphane, il y a une dame qui était presque les larmes aux yeux avec son téléphone portable. Parce que les gens qui étaient VIP. Non, et je fais.
C'était sa mère.
Je crois qu'elle a maman.
Oh merde.
Et la maman fait non, je suis la tante. Elle était en train de filmer avec les larmes aux yeux, les applaudissements mérités du gamin parce qu'il était touchant. Et je me dis, oh non, c'est pas possible. Elle est en train de kiff pour le gamin et il y a un gros con, en l'occurrence moi, qui sur la vidéo est en train de dire que sa chanson c'est de la merde. Voilà, même si c'est pas du tout là, cette chanson n'était pas terrible. Donc je suis désolé s'il écoute. C'était très touchant. C'est, ta chanson, c'est pas ma cam, mais j'espère vraiment que tu as profité du truc parce que voilà, tu mérites, tu peux faire des choses plus longtemps, mais ta chanson, moi, c'était pas ma cam.
Franchement.
J'ai fait assez vite, assez correct.
Allez. Bon, c'est drôle l'anecdote. Et moi, je dois avouer que quand j'avais entendu les extraits des chansons françaises, c'était une des chansons que j'avais les moins envie d'écouter, franchement, et ça m'a beaucoup surpris. Bon, je lui ai donné 4 étoiles, pas 5, mais j'ai été plus généreux que vous parce que c'est sur la première écoute, comme ça, on voit qu'il se défend très bien sur la scène, donc c'est pas si mal, notre Max. Et tous les jours, ils sont donné beaucoup de points, peut-être à cause des applaudissements dont vous parlez, là, du coup. Hein. Ça s'explique alors.
Ah, ok. Oui, c'était dingue.
C'était dingue. Ouais. C'était dingue. Est-ce qu'il pourrait représenter la France? La chanson, moi, je trouve qu'il est actuel. Par contre, il n'est pas très mémorable dans le sens qu'on peut l'oublier facilement. Je suis d'accord. On verra. Hein. Peut-être on se trompe et peut-être c'est lui qui le représente avec et vous laisse dans une bonne position la France. On écoute la minute finale. Allez.
Combien de temps passera les yeux dans les yeux, toi et moi, tous bébés en fire. Ensemble on peut s'en aller ailleurs. You dance into the night. Couper pieds nus dans le sable. Oh, we become one body. Essayons d'assembler nos âmes. You dance into the night. Danser au rythme des flammes. Our souls melting combining. Comme si on était ailleurs.
Hey. And what if
we went on dancing to the moon? Stars came up,
we're dancing on.
And we followed our hearts, making way through the cheering crowd.
We're dancing on.
Combien de temps passera? Les yeux dans les yeux, toi et moi. Tous bébés en fire. Ensemble, on peut s'en aller ailleurs. You're dancing till the night is over.
C'est Farouk.
Oui, c'est Farouk qui va vous présenter la chanson de Nassi. C'est un auteur-compositeur qui a beaucoup de talent puisqu'il a déjà signé des textes pour Soprano, Claudio Capeo, Kenji Girac. Mais il est aussi chanteur et dans ses compositions se mélange à la fois une pop française très, très, très traditionnelle, surtout dans les textes, avec des rythmes plutôt urbains. Et ça marche. Ça marche parce que il a eu du succès, notamment l'an dernier, avec un tube qui s'appelle La vie est belle, qui a très très bien marché. Là, il nous propose un titre qui s'appelle Rêve de gamin, qui raconte en gros l'histoire d'un gamin qui veut chanter et tout le monde autour de lui essaye de l'empêcher de réaliser ce rêve. C'est vraiment un truc typiquement français au niveau du texte. J'aime beaucoup la voix de Nassi. Je pense que vraiment il a un talent de chanteur qui est incontestable. J'ai moins été fan de la prestation et notamment de la chorégraphie. Je trouve que c'est pas adapté, c'est un petit peu brouillon, on s'y perd et ça distrait finalement du titre proprement dit. Une deuxième remarque que je ferai à Nassi, c'est que j'ai l'impression qu'il voit, il se dévalorise. J'ai remarqué pendant la présentation qu'il disait oui moi je suis fils d'immigré, c'est difficile et blablabla. Et ensuite il a dit aussi qu'il se trouvait pas beau et tout ça. Bah, on a le physique qu'on a, et quant à être fils d'immigré, ça n'a pas empêché plein d'artistes d'avoir du succès. Il faut pas se focaliser sur ça. Nassi, tu as du talent d'écriture et de chanteur. Vas-y, fonce. Et moi, rêve de gamin, j'adore.
Mais t'as parlé justement de d'un des tubes de l'année dernière, mais ça a été vraiment un des tubes. La vie est belle. J'ai l'impression d'entendre la même chose, exactement la même chanson. C'est la même rythmique, c'est la même construction. Effectivement, il l'écrit pour plein d'artistes en France. Je pense que sa chanson méritait d'être qualifiée. C'est pas trop ma came, mais il méritait d'être qualifié. Par contre aussi, je pense qu'il a été qualifié par les jurys, notamment français, parce que peut-être ils veulent que Nassi lui écrive des chansons. Pardon, ça c'est une petite blague, mais c'est pas trop ma came, mais qu'ils soient en finale, c'est pas scandaleux.
Il était quatrième sur les jurys étrangers, hein, ou troisième, je sais plus.
Mais... Oui. Non, mais la chanson marche, il peut très bien marcher, hein, c'est un bon rythme et tout.
Christian Björkman a adoré,
il a donné 12 points, oui. Ils sont tous donnés des points, Nassi, hein, faut le dire. Ouais, je trouve que la chanson, un petit peu comme celle de Maître James, il lui manquait quelque chose pour être bon, pour exploser, pour dire, pour lui donner les 5 étoiles, j'ai donné aussi 4. Et pourtant, j'ai pensé qu'ils allaient adorer, hein, quand j'avais entendu l'extrait. Je m'attendais à un refrain plus puissant et finalement, le refrain, je pense qu'il perd un peu de force. Moi, la choré, j'ai trouvé très sympathique par contre. Et l'univers d'Stromae, il est là, et je pense qu'il aurait été vraiment un très bon représentant de ce qu'est la musique en France. Et c'est un peu dommage. Et après ce que tu as dit, le reste, Farouk, je suis plutôt d'accord. Et voilà. Ethan?
Moi, ça m'ennuie parce que je l'ai trouvé plutôt sympathique dans son portrait. Mais j'aime vraiment pas. Le style de la chanson me plaît pas. Les couplets surtout. Et les refrains, le refrain parvient pas à me les faire oublier. La prestation live, encore moins que la chanson. Enfin bon, bref, pour moi, non, il a pas sa place en finale. Après, j'aime bien le volume qu'il arrive à donner à sa voix, là, sur des sonorités que moi j'appelle arabisantes, je sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas j'aime bien ça, le grain qu'il donne à sa voix. Mais ça m'ennuie qu'il ait pris la place d'un autre.
Bon. Donc, ah oui, moi Fabrice. C'est pas trop ma came non plus. De quoi?
Si, j'avais oublié que tu devais parler. Vas-y.
De rien, je dis pas grand chose, mais ce que je dis c'est toujours pertinent.
Mais c'est ça.
comme je suis tout à fait d'accord, comme dit Olivier, je pense que certains rêvaient peut-être que Nassi leur écrivait une chanson. Moi, c'est pas trop ma came. J'ai pas trop aimé. Et puis, on en avait parlé avec Farouk. C'est vrai que la mise en scène me faisait peut-être un peu trop penser au Tune Swine. Mais non, j'ai hâte d'entendre les prochaines chansons.
Ok. Bah, messieurs, dames, les rêves des gamins, on va rêver un petit peu avec la minute finale, allez.
Plus le temps passe et plus les gens me disent que je n'ai pas ma place. Pas comme eux, qu'il faut que je fasse comme écrit dans les livres. Mais têtu comme je suis, moi je n'en fais qu'à ma tête. Je me suis fait des promesses dont le cœur se souvient. Quand je vise le sommet, je regarde plus loin. Je vais suivre mon étoile, celle que mes nuits me dévoilent.
J'ai beaucoup parcouru des pays. Petite intro de boîte à musique et la superbe chanson Dig It, Lisboa, Jérusalem. C'est mon premier 5 de ce podcast. C'est également mon 12 points dans le vote Eurovision et ma chanson préférée de, enfin, c'est mon 12 points de ces finalistes. Je suis d'accord, pas forcément la meilleure, c'est pas la meilleure chanson. En tout cas, c'est pas celle qu'il faut envoyer à l'Eurovision. Mais pourquoi j'ai donné 12? C'est qu'il est arrivé, alors Igitt, je le connais un petit peu, voilà, bon, j'ai pas vu The Voice, mais je connais un peu ses chansons, je les ai utilisées pour les concours au GAE, dans les présélections, que ce soit l'année dernière ou cette année, ses chansons, ses clips, j'aime bien. Et là, il est arrivé sur scène, il a s'est présenté, il a fait sa reprise d'Orlesan, tout va bien, et là, j'ai eu les frissons. Il a commencé, il a ouvert la bouche. J'avais la chair de poule. Il m'a impressionné.
Okay.
De là, jusqu'à la fin de sa chanson de l'Eurovision, il m'a impressionné. J'avais la chair de poule, donc c'est pour ça que j'ai mis 12. En revanche, pour le petit cœur, Jérusalem, mon coco, c'est pas très bon en géographie. Les fans de l'Eurovision le sont, même s'ils étaient pas bons en géographie à l'école, le sont à force hein, d'aimer l'Eurovision. Jérusalem, c'est pas en Turquie. Voilà.
Ok.
Il était placé à la place d'Izmir.
Très bien. Donc, et Igitt, moi, pareil que toi, j'ai donné 5 étoiles. Et moi, c'est le seul qui l'a classé au top 3. Enfin, en plus de toi, évidemment, que tu l'as mis ton favori. Moi, je l'ai mis 3e, si je ne me trompe pas. Hein. Et moi, c'est le seul qui l'a mis pour mon potentiel gagnant de la sélection. Parce que, attention, pour moi, c'est la chanson la plus originale de la sélection pour quelqu'un étranger comme moi, enfin même si j'habite en France, mais ça fait si français et si original que je le disais à l'autre jour à Ethan, sans avoir entendu encore la chanson, juste pour l'extrait, que pour moi cette chanson, c'était à l'écouter et dire mais c'est quoi ça, j'ai envie de l'écouter, parce que ça fait si français, on a envie, c'est ce qui, enfin il faut envoyer quelque chose d'original, bah, vous l'avez, moi je ne serais pas triste s'il gagne la sélection du coup, hein. 5 étoiles, donc Ethan.
Moi aussi, je serais triste. je reconnais que c'est bien fait, hein. Mais c'est tellement loin de mon univers, tellement loin de ce qui me plaît, ce qui me touche, ça me laisse complètement froid, j'attends juste que ça passe.
Alors, moi, je trouve que c'est vraiment la révélation de Destination Vision, c'est vraiment un interprète, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, mais peut-être trop franco-français pour s'expatrier à l'étranger. Et notamment à l'Eurovision. Mais je trouve l'idée très sympa. Moi, j'ai bien aimé le petit cœur. J'ai pas fait attention que le Jérusalem était à Izmir, je sais pas trop quoi. Et j'ai adoré.
Je pense que vous devez vous méfier parce que coup sur coup, l'Eurovision a célébré deux artistes qui sont typiquement dans le registre de leur pays, on va dire. Oui. Ils ont pris des artistes authentiques qui vraiment ont représenté la chanson presque traditionnelle de leur pays. Et avec Igitt, c'est clair, on est dans un cliché, celui de la chanson des rues, celui des artistes de Belleville, de Montmartre. Mais ce cliché, il l'assume totalement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de voir un petit peu une réplique de Brel vivant sa chanson de manière intense et très forte. Mais le vote du jury professionnel étranger m'a confronté dans confirme fait que je pense vraiment que ça peut plaire aux étrangers. Sauf French, je sais que les Eurofans apprécieront pas, c'est clair. Mais il y a quelque chose, il y a un plus par rapport, par exemple, à Patricia Cass, qui nous avait représenté avec une chanson de ce type-là en 2009. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus fort. Et quand je vois le score de Jacques Houdek ou du polonais du hongrois Josip Papai au concours là, là encore avec des chansons très authentiques, pas très actuelles, mais qui finalement représentent l'essence même de leur pays, ben je me dis que à Igitt à l'Eurovision, ça peut surprendre et agréablement.
Tout à fait, tout à fait. C'est Farouk, je suis d'accord. Donc, un petit commentaire, si j'aime bien comment il prononce Gibraltar à l'espagnol dans la chanson. Donc, on va écouter la minute finale de peut-être votre représentant.
C'est pour avoir le vote des Espagnols.
Voilà, tout à fait.
Lisboa est prononcé à la portugaise
Lisboa,
également.
Lisboa, t'as raison, t'as raison. Il va gagner des points de tout le pays. Ok, la minute finale.
Je n'aurais pas vu Lisboa, ni Jérusalem. Je serais resté ici pour que tu me retiennes dans ce petit pays dont tu es la reine.
Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je n'aurais pas vu Lisboa. Ni
Jérusalem. Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je n'aurais pas vu Lisboa.
Flash Info Eurovision 69.com.
Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar.
Mais c'est quoi cette chanson? C'est même pas en français, mais c'est quoi ça? Ah, ah, surprise! Samy n'était pas au courant, mais j'ai décidé de faire quand même un flash info. Parce que le 23 janvier, après l'enregistrement du podcast, tous les 5, bah, il se trouve que la télé espagnole a publié enfin les chansons qui participent à la finale espagnole du 29 de Operación Triunfo. Et comme vous savez que je suis très fan et que je suis espagnol, bah, j'ai décidé de faire un petit flash info juste pour que vous ayez une petite idée des 9 chansons qui vont participer à la finale espagnole, que malheureusement on n'a pas le temps de faire un podcast cette année sur la finale. Donc voilà, au moins un petit flash info. Donc il y a 9 chansons qui participent à la finale. Donc c'est des 9, il y a 8 qui ont été spécialement composées pour les 5 finalistes de la Champions. Et la 9e, c'est plutôt celle que vous écoutez, Camina Marche, c'était composé par les finalistes du programme, donc eux-mêmes, et c'est l'hymne de Pelafin pour cette année, et ils sont surpris tout le monde en la choisissant en fait.
Aquí nos conocimos, una extraña realidad.
Il y a 9 chansons, donc sur les 9 chansons, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé une chanson à chacun des 5 finalistes, et puis ils ont décidé de faire 3 duos, et quand il manquait une personne, ils ont pris le 6e classé de Operación Triunfo, c'était Aroney. Donc Aroney et Miriam, ils ont une chanson qui s'appelle Magia, Magie. Là, c'est vraiment la maquette et quelques secondes de la voix de Miriam que vous avez écouté. Ils doivent encore répéter jusqu'à jeudi 25, on ne connaîtra pas les chansons, plutôt la version finale. Donc voilà, mais ça c'est juste pour le flash info. Miriam en solitaire va par contre chanter la chanson Les Roses de Tupi, que c'est Loin de ta peau. C'est une chanson comme ça. Donc, un autre duo s'est composé par Aitana et Ana Guerra, qui vont nous chanter la chanson qui s'appelle Chico Malo, que c'est les garçons méchants, là. Vous allez voir, c'est une chanson plutôt latine, et c'est comme ça. Après en solitaire, Ana Guerra, Ana War pour les Espagnols, et chante la chanson El Remedio, le remède, qui est une chanson aussi latine, vous allez voir.
Tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes frío y nadie te acalora y le tienes miedo a la oscuridad. yo voy corriendo pa' allá. Si por la noche no pasan las horas, si tienes frío y nadie te acalora, le tienes miedo a la oscuridad, yo voy corriendo pa' allá.
C'est vrai que ça sent plutôt colombien parce que c'était composé par un Colombien, il faut le dire. Hein. Et par contre, Aitana, il a une chanson beaucoup plus tranquille et ça s'appelle Arde, brûle. Aitana était une des favorites de Opéra Fintuco cette année. Je m'attendais une chanson en anglais rythmique. Mais bon, il adorait la chanson. Autre des favorites, c'est Alfred. Alfred. La chanson qui nous signale las luces que les lumières nous suivent. J'ai attendu que la chanson d'Alfred, c'était la chanson d'Amaya, qui est actuellement sa copine dans les concours, et copine, mais voilà, petite copine. Et elle, Amaya, va nous chanter la chanson Alcantar, en chantant, ou plutôt lorsque je chante, on pourrait traduire.
Lo que un pájaro al volar, eso es lo que siento yo.
Vous écoutez vraiment les premiers essais de tous les chanteurs ou les maquettes, c'est pas du tout ce que peut-être vous allez écouter à la finale. Et bon, la chanson de Amaya était hyper attendue parce que c'était une des vraies favorites, c'était un peu comme la Rosa d'Espagne en 2002, mais surtout ce qui était attendu c'était la chanson en duo, parce qu'on savait tous que ça allait être un duo, c'est Alfred et Amaya. La chanson s'appelle Tu canción, ta chanson.
Solo quiero
tu canción.
Messieurs, vous écoutez là une chanson qui a fini très 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 haut dans notre classement. Figurez-vous qu'il aurait gagné notre classement si on avait utilisé les votes Eurovision, parce qu'il a plus de points que personne. Mais en regardant les étoiles, on s'aperçoit qu'il y en a certains qui n'ont pas aimé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas gagné les classements. C'est qui? C'est Lisandro Cucci. C'est quelqu'un qui a gagné le The Voice en 2017. Peut-être la plupart qui vous écoutent les podcasts vous connaissez déjà. Et la chanson c'est Eva. Donc une chanson qui à la première écoute m'avait laissé un peu, je l'ai trouvé un peu transparent jusqu'à ce que j'ai entendu la fin où il crie. Je trouve très 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 bien. Bon, mes amis qui ont adoré, ils vous raconteront plus de détails peut-être. Juste l'anecdote, c'est que Lisandro, il a participé à The Voice la même année que Jane Constance, qui a fini dernière dans notre classement, et lui il a presque gagné notre classement dans la même année de The Voice. Et
The Voice Kids.
Ah oui, The Voice Kiss tout à l'heure. Merci, merci Farouk. C'est ce que je voulais. C'est ça. C'est pour ça que c'était pas cohérent, parce que c'était elle qui avait gagné The Voice Kids, c'est ça? Et après, oui. Lui, là, en revanche, il a gagné The Voice Adult. Tout à fait, merci beaucoup. Et sinon, il y en a qui, ici qui vont dire qu'il pourrait jamais gagner l'Eurovision parce qu'il va finir dans les top, bottom 5. Je crois que Olivier va le dire. Moi, je crois que ça rappelle beaucoup à la Bulgarie de l'année dernière qui a fini deuxième. Donc, voilà. Ethan?
Alors, il chante bien, ça c'est acquis. Je trouve que le refrain est assez réussi. Pareil pour les montées qui les précèdent, même si ça n'a pas grand-chose d'original. Mais les couplets sonnent vraiment très mal, je trouve. On sait pas trop s'il rappe ou s'il chante. En tout cas, c'est pas joli. La petite choré Jackson style, moi ça me laisse un peu froid, même si j'aime bien la façon qu'il a de souligner les percussions. Il est pas obligé de s'attraper le paquet, ça c'est, enfin bon bref, je trouve que c'est plutôt ridicule la choré. Et alors ça me fait beaucoup penser au I've Been Waiting For This Night de Donny Montel en 2016, et je trouve à vrai dire que c'est pas meilleur. Et pour mémoire, il avait fini 9e. Alors, même si c'est pas mal, hein, une 9e place à l'Eurovision, on est encore à quelques marches du podium.
Pour la Lituanie, en plus.
C'est très méchant, ce que vous dites. Très, très, très méchant. Ça fait 40 ans qu'on attend cette chanson.
Ah non, pas moi. Hein.
Ah si, ça fait 40 ans. La première fois que je l'ai entendue, je me suis retourné et je dis, ça y est, c'est bon, on s'en va à Lille en 2019. Et puis voilà, et on a discuté un petit peu avec Lissandro, et il est prêt à tenir le flambeau comme Marie-Myriam pendant 40 ans s'il le faut. Et je soutiens vraiment Lissandro, jusqu'à la fin je le soutiendrai, voilà.
Eh ben, je suis d'accord avec Fabrice, je pense que c'est le seul qui nous a fourni une performance, the wall package, il chante bien. Sa voix est parfaite, il n'y a pas eu de problème de justesse. Il danse bien, il bouge bien, il accroche la caméra. Vraiment, je trouve que sa performance est remarquable. Alors, avec ou sans danseur, le débat va sûrement se poser s'il est qualifié. Moi, je pense que tout seul, il peut arriver à faire son effet. Il y a peut-être quelque chose à travailler, effectivement, sur le couplet et sur le moyen de mettre en avant sa partie dansée, mais il y a un potentiel là-dedans. Si la base de notre travail c'est 9e à l'Eurovision, il y a le moyen encore de travailler pour remonter un peu plus et pourquoi pas accrocher un top 5, voire mieux. Il y a vraiment quelque chose dans cette prestation et moi je soutiens vraiment à fond Lissandro. Je pense que c'est sans doute le candidat qu'il nous faut. Et comme le disait Fabrice, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Que ben voilà, maintenant qu'il est là, on va quand même pas faire la fine bouche.
Bah si, justement, on va faire la fine bouche.
Non, mais toi, tu es Olivier, bon, c'est normal, tu fais toujours la fine bouche.
Ça va pas vous étonner, je suis celui qui a donné la plus mauvaise note, le moins d'étoiles et la moins bonne note au niveau classement Eurovision. Je dis pas que c'est une mauvaise chanson. Il chante bien, il sait bouger. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La chanson, quand on l'écoute, est très bien. La seule chose que je trouve est, lors de l'enregistrement et de la finale, il y a, juste après lui, il y a deux chansons qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui sont très fortes. Et moi, je l'ai complètement oublié. Cette Eva, j'ai complètement oublié la chanson. Et il n'y a que 9 participants. Si on envoie ça et qu'à l'Eurovision, on se retrouve dans la première partie du classement et qu'il y a des chansons fortes qui arrivent, plus tard dans la soirée, on risque de l'oublier. Parce oui. que tu as dit, Farouk, c'est très juste. Si ça, c'est la base pour être bien, il faut la retravailler pour pouvoir faire un truc. Il manque Eva. Il manque le petit truc qui fait une victoire. On va dire que Rose de Manchester Mellow, c'est un peu dans la même veine. On va dire le même type de chanson pop qui tiennent, et il manque à Eva le petit truc qu'avait Heroes, qu'avait Rise Like a Phoenix, qu'a eu les gagnants. Il manque ce petit truc à la chanson, même si effectivement c'est quand même une bonne base, c'est une bonne chanson, je dis pas, et qui chante bien, qui sait bouger. Le truc du paquet, l'amant paquet, Il fait ça parce qu'il est fan de Michael Jackson, sauf que Michael Jackson était ça pour Bad. Donc il y avait vraiment une cohérence entre sa chorégraphie de la main en paquet et la chanson. Là, se mettre la main en paquet sur une chanson qui parle d'une mère célibataire, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le moment, surtout en ce moment. Voilà. Non, c'est voilà.
Bon. Avant pas de passer à la minute finale, parce que je pense que j'ai oublié de dire que c'était ma chanson favorite aussi, comme celle de Fabrice Farouk, hein. Parce que peut-être vous avez compris qu'ils aimaient pas, mais au contraire, je donnais aussi 5 étoiles comme eux, et j'ai eu vraiment du mal à les partager parce qu'il y avait deux chansons qui m'ont beaucoup, beaucoup, voire trois, avec Igitt, beaucoup, beaucoup ému, et ça fait partie de ces trois-là. Voilà. Donc, minute finale. C'est Farouk.
Non, c'est Fabrice. C'est Fabrice.
Mais c'est Fabrice, pardon.
Là, je viens de faire un tchoum. Donc, j'avais enlevé mes écouteurs. Alors, c'est Malo. Avec la chanson de Ciao. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ça plaît au jury, ça plaît au public aussi. Donc, ça se pose aussi comme un outsider pour représenter la France cette année. Un outsider, je dis bien. On ne sait jamais, ça dépend peut-être de l'ordre de passage ou ça dépend pas grand-chose. Hein. Ça dépend si on est avant ou après Lissandro. C'est bien, on est fiers d'avoir cette chanson dans la sélection.
Tout à fait. Malo est quelqu'un de très talentueux, pour qu'il ait été remarqué par Jean-Louis Aubert, qui lui a offert de faire la première partie des Insus au Stade de France. Je pense que c'est pas n'importe qui. On est dans un univers pop rock très anglais, avec ça et là des petites pointes d'électro. Au début, c'est tout doux, très sobre, et puis tout à coup, il se lève et là. Ben on est un peu scotché, il se lève et vraiment il donne de la puissance. Alors, c'est vrai que des fois il y a eu une petite légère un petit peu de problème de voix. Des fois effectivement on comprend pas trop ce qu'il dit. En fait c'est très mystérieux ce morceau. En trois temps, assis au piano tout doux, levé devant son piano très puissant et ensuite debout face à son piano. Mais j'aime beaucoup. C'est très actuel. Et ça peut plaire à un large public. Alors Malo, oui, pourquoi pas.
C'était effectivement un peu l'extraterrestre de cette demi, de la première demi. J'avoue, moi, sur l'extrait court de présentation, bon, déjà quand j'ai vu Malo est dans la sélection, j'adore d'office. Le petit extrait me plaisait énormément. La chanson en live, effectivement, alors c'est vrai, on comprend mieux ce qu'il dit dans la version studio que ce qu'on a entendu en live. Et j'avoue que je suis resté, j'ai ouvert grand les yeux parce que d'abord, effectivement, il sort bien derrière son piano, tout calme. Et quand il s'est mis à gesticuler partout en sautillant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'était assez bizarre. Donc, effectivement, on ne comprenait pas parce qu'il bouffait ses mots. Et voilà, et quand je disais, tu vois, c'est la chanson qui est passée juste après Lissandro lors de la demi-finale, et une prestation aussi forte, et ben voilà, ça peut casser les chances de Eva. Voilà, je suis pas sûr Ça passe ou ça casse à l'Eurovision, Ciao de Malo. Hein. Ça peut être très aimé comme super détesté. On verra ce que ça donne. Donc personnellement, je suis pas sûr que ça soit le bon choix pour Lisbonne, mais j'aime beaucoup. Et si c'est envoyé, je soutiendrai parce que j'aime la chanson et j'aime l'artiste. Donc là, avec un super album en plus. Il a un super album.
L'album s'appelle Be Être. Il est sorti en 2016. Et effectivement, il faut vous le procurer. C'est vraiment très chouette.
Et bon, c'est curieux parce que ça me fait penser à Manu Chao, le nom. C'est Malo Chao, mais pas Manu Chao de Manu Nerela du groupe.
C'est connu. Aitor, quand on fait une blague, on doit pas rire à sa propre blague.
Et Malo. Tu l'as fait. En espagnol, Malo, ça veut dire mauvais, mais je suis pas d'accord. C'est pas mauvais du tout. J'ai bien apprécié. Moi, j'ai classé 4e à l'Eurovision, si vous voulez. Il y a 5 étoiles. Et je crois qu'il me rappelle beaucoup à Rafael Gualazzi de 2011, qui était mon favori de 2011, je vous le rappelle. Et il me rappelle aussi beaucoup la voix à Vianney. Donc je crois que ça aurait été un très bon choix pour la France, un choix interne. Ça ne serait pas choqué si on aurait envoyé ça pour la France. Et c'est très 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 bien, très bon. C'est la classe, quoi. Mais il pourrait même gagner, hein. Bon, on sait jamais. Ethan ?
Non, je pense pas qu'il y ait de chance de gagner. C'est 5 belles étoiles pour moi sur la base de la version studio, mais le live en vaut pas plus de 2. La magie du morceau opère tant qu'il est au piano, mais à partir du moment où il se lève et s'excite tout seul, ça fait retomber le charme pour moi. Les couplets sont plus aussi envoûtants, les refrains surlignent inutilement son agitation ou inversement. Bref, collez-le au tabouret pour la finale.
C'est bon, on a fini. Écoutons la vidéo finale alors.
Merci, 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 merci pour ce morceau qui nous est interprété par le groupe Madame Monsieur, qui sont unis sur scène comme à la ville. Madame Monsieur.
À la fille, pardon. Hein,
comme pardon. À la ville.
Madame. J'avais compris comme à la ville, comme à la ville de Paris. Ok, merci, merci, pardon.
Non, et toi, enfin, t'expliquer quelques expressions françaises.
Ok.
Madame Monsieur est un groupe que j'aime beaucoup depuis. Ça fait pas très très longtemps qu'ils jouent. Enfin voilà, qu'ils sont un peu connus. Ça fait, on va dire, deux ans.
Leur album date de 2016.
Oui, leur album date de 2016, qui est très très bien d'ailleurs, c'est un très bel album aussi. Madame Monsieur, pour ceux qui font partie du fan club Eurofan, il a été dans la sélection, dans le quart final de la sélection OGAE pour de l'année dernière, avec le titre Partir. Donc voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, l'album est vachement bien. C'était une des chansons les plus attendues par les fans, que ça soit français ou étranger. Au niveau des extraits, les classements qu'il y a eu sur YouTube, ce titre était régulièrement, en général, les trois premiers, hein, soit pour nous dans les trois premiers. Voilà, il est très très apprécié. Il n'a pas déçu. Il a déçu quelques personnes, mais en général, les gens adorent. C'est un très très beau morceau. Je trouve qu'il est très bien ficelé. Et voilà. Et j'aimerais beaucoup que ce soit celui-ci qu'on envoie.
Moi aussi, un peu étonné parce que quand je regarde les classements étoiles, cette chanson elle a fini deuxième grâce aux 5 étoiles que vous savez tous donner. Et c'est à cause de moi qui n'a pas gagné, c'est venu 4 étoiles. Et vous savez que je n'ai pas triché parce que c'est le temps qui a fait les fichiers. Moi, je connaissais pas vos votes et je suis surpris parce que normalement, c'est moi les gentils du podcast qui donnent les 5 étoiles. Et moi, je trouve très, comment dire, très émouvantes les paroles, très émouvantes les paroles de la chanson. Et ils sentent bien, c'est bien composé, mais je trouve pas que ce soit une chanson si percutante que ça, en fait. J'ai pas compris pourquoi l'engouement, même des jurys, en fait, je trouve juste correct, mais je pense qu'il y avait d'autres meilleurs, non? Ethan?
Oh, on a plus Ethan.
Are you there, Ethan?
Pardon, excusez-moi, je suis là. Et je
merci,
je
merci.
Que j'étais pas d'accord avec toi. C'est celle-là, moi, la chanson que j'attends depuis 40 ans. C'est ma Blanche de cette année. La Blanche Belge de l'an dernier. Voilà, c'est un morceau qui m'enthousiasme. J'aimerais d'ailleurs beaucoup entendre la voix de Blanche dessus. Je trouve ça magnifique. Je pense que ça peut être très haut dans un classement Eurovision. Gagner, j'en sais rien, ça tient à tellement de choses. Ça sonne à la fois français, à la fois actuel, et ça peut plaire à l'international. Je pense qu'il y a tous les ingrédients. Je les trouve très beaux en live, tous les deux. Bref, j'ai envie qu'ils me représentent cette année à Lisbonne.
Mais je pense que la France va se diviser en deux. On aura les pro-Lisbonne. Et peut-être trois, on aura
non,
les
trois. Films, ça va être trois,
Madame
je pense.
Monsieur, et les pro Emiliana. Qu'importe celui qui va gagner, de toute façon, on sera fiers de notre représentant. Et je mettrai un bémol sur quand même Madame Monsieur, parce que le jury, lors de la deuxième demi, n'a pas été unanime, contrairement pour Lisandro, où il l'a été.
Mais il n'y avait pas de concurrence dans la première demi-finale. Hein. Le jury international a concentré ses voix sur quatre candidats, alors que pour la deuxième demi-finale, ça s'est vachement réparti. Il n'empêche que eux se sont détachés dans les voix des jurys internationaux. Moi, je pense que c'est vraiment le titre qui a le plus de chance.
Ouais, moi, je rejoins en gros ce qu'a dit Ethan. C'est très classe. Ils ont su parler d'un sujet très compliqué, très polémique aussi, avec beaucoup de doigté, c'est très doux. Je pense que c'est une chanson qui peut marcher à l'Eurovision, qui peut montrer aussi que l'Europe n'est pas uniquement composée de racistes, et que les Européens sont en grande partie des gens ouverts. Ils étaient ouverts aux femmes à barbe, enfin aux hommes aux femmes à barbe avec Conchita Wurst. Ils étaient ouverts à Jamala. Au Portugal de l'an dernier, ben moi je pense qu'ils peuvent très bien adhérer à Madame Monsieur. Il y a une magie dans cette chanson, c'est certain. Je pense juste peut-être que Émilie doit travailler son jeu de scène. Elle a beaucoup de charisme, elle accroche l'écran, mais quand elle chante et qu'elle se recroqueville sur elle-même ou elle serre ses jambes, on ne sait pas trop si elle n'a pas envie d'aller faire un petit besoin. Ça va pas.
Voilà.
non, mais je vous dis, ça m'a dérangé. Je pense qu'il faudra, de toute façon, la chanson est comme elle est et elle est bien. Ils vont devoir trouver la prestation qu'il faut pour la mettre en valeur. Là, c'est à eux de faire preuve d'originalité. Mais en état, ils ont mis tout sur la chanson. Il faut travailler la prestation.
Ouais. Et alors, excusez-moi, je reprends la parole. Il y a un truc aussi qui fait qu'il faut voter pour eux samedi prochain. C'est quand Garou leur a demandé, et alors pourquoi vous voulez faire l'Eurovision? Bah parce qu'on en meurt d'envie, tout simplement. Je crois que ça a été ça leur réponse. Oui. Et ben voilà, oui. Il faut voter pour des gens comme ça, des gens qui meurent d'envie d'y aller.
Comme les Angels.
Non, oui, bon. C'était un contre-exemple, et effectivement.
Bon. On aime bien Lisa.
C'est vrai que de tous les participants, ils ont tous dit oui, on a envie d'y aller parce qu'on est fiers de représenter notre pays. Eux, c'est vraiment eux qui ont dit non, mais on veut y aller, c'est notre kiff, ça serait notre kiff, quoi.
Avec Mazoué. Mazoué avait le même enthousiasme qu'eux. En fait, c'est les deux candidats, enfin, ils sont trois du coup, qui étaient le plus enthousiastes sur ce pourquoi ils étaient là. Ils n'étaient pas juste là pour se montrer à la télévision française, ils veulent faire l'Eurovision.
Bon. Moi, je voudrais passer à la minute finale si ça vous gêne pas, par contre. Merci.
Que sera demain? Je suis née ce matin, je m'appelle. Merci. Merci.
Petite pause avant de vous faire découvrir notre gagnant de ce podcast, notre gagnant de la sélection française. On va vous se prêter au jeu des pronostics au son de Marie-Myriam, donc notre dernière gagnante en titre. Et c'est moi qui commence parce que je suis le seul à avoir un vote différent des autres pour le gagnant que je vois. Et c'est Madame Monsieur que moi je vois gagner. Je pense que à la fois les jurés internationaux et les téléspectateurs vont être de mon avis. Mais c'est pas l'avis de mes copains.
Oui. C'est à moi, ouais. Bah moi je vois Lissandro, hein, forcément.
Moi je vais quand même faire un petit aparté d'abord pour signaler que nous avons quand même mis beaucoup de bonnes notes et que nous avons une moyenne globale de 3,27 sur cette sélection nationale. Ça arrive très rarement, oui. Beaucoup de 5, beaucoup de 4, ça prouve la qualité quand même de cette sélection. Globalement les titres sont quand même assez bien produits et ont visiblement pour nous quand même de l'intérêt. Donc je voudrais dire bravo à France Télé et à ITV Studio pour nous avoir concocté cette sélection qui est sans doute une des meilleures, voire la meilleure que la France nous a proposée dans toute son histoire. En ce qui concerne les pronostics, je pense que ça va être compliqué de voir entre Lissandro d'un côté et Madame Monsieur de l'autre côté. C'est deux univers et deux publics totalement différents. Et donc derrière, j'ai mis éventuellement comme outsider Emiliana. Je rajouterai éventuellement Max, parce qu'on a peut-être un petit peu oublié le petit Max, mais sait-on jamais. Bref, donc, moi, je dirais Lissandro, Madame Monsieur, et puis, derrière, Emiliana, et peut-être Max.
Alors, effectivement, chacun, dans ses pronostics, a donné le gagnant au niveau des pronostics, son gagnant, votre gagnant, classement Eurovision. Sachant que moi, j'ai mis Igitt, et que j'ai dit que c'était pas la chanson envoyée, je suis le seul à avoir un 12 différent. J'ai aussi choisi Lissandro, que Lissandro va gagner cette sélection française. Pas parce que je trouve que c'est la meilleure chanson, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chanson, mais il y a des trucs à travailler. Je pense plus sur la notoriété de l'artiste, que les gens connaissent Lissandro, plus que Madame Monsieur, et ils vont plus voter pour lui. Donc je pense que c'est lui qui gagnera. Effectivement, après, derrière eux deux, Lissandro et Madame Monsieur, il y a Emiliana qui arrive là et qui peut créer la surprise. Et comme l'a dit Farouk, Max, parce que lui, c'est vraiment la grosse surprise de ces deux demi-finales. On l'attendait pas du tout là. Il a vraiment un impact, il a été adoré. Il est quand même arrivé second de sa demi. Ça peut marcher, ça peut créer la surprise. Pourquoi pas? Si ça se disperse trop dans les trois premiers, il peut fermer la marche.
Moi, je suis un peu la note discordante. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Parce que, non, pour les cendres, je suis d'accord. Et beaucoup de chance parce qu'en plus, on a un nombre de visites sur YouTube par rapport à celles de la première demi-finale. Parce que ce sont ceux qui ont passé une semaine par rapport à la date d'enregistrement. Il est loin devant la deuxième. Il a 545 000 visites par rapport à Emiliana qui est à la moitié. Et après, bah, Luca, qui a 127 000, pas Fabrice. Et voilà. Donc, c'est vrai que Lissandro, je les vois avec beaucoup de chances de gagner. Et je vous dis, j'adorais sur The Voice, quand il a gagné, j'étais très content. Il arrive même à me voir. Pour moi, c'est parfait, c'est le gagnant. Mais, vous oubliez pour moi Igitt, que vous l'avez pas mis dans le top 3. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, Igitt, pour un jury international, parce que c'est de la qualité on peut pas nier qu'il a une qualité impressionnante. C'est hyper original, ça fait hyper Frenchy pour un étranger comme moi. Enfin, même si je suis moitié français, bon. Enfin bref, je crois que pour ça, et il a beaucoup de chances de gagner aussi. Et après, je connais pas du tout les goûts du public français parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire des sélections télévisées. La dernière fois, c'était les Twin Twin qui ont gagné. Donc, nous ne savons pas ce que ça va donner les télé, votre monsieur. Ah, et sinon, bah, Emiliana, j'ai la voix aussi dans les top 3.
Sur le public de destination Eurovision.
Et répète, on a parlé les deux en même temps. J'ai dit, pour moi, Emiliana, j'ai la voix aussi dans les top 3. Et maintenant, parle parce qu'on a parlé les deux en même temps.
Pardon, excuse-moi. Donc, je disais, il y a une grosse incertitude sur quel est le public de destination Eurovision et du coup, qui seront les votants. Moi, je vois pas les gens voter pour, enfin, le téléspectateur de France 2 voter pour Lisandro. Donc, je le mets même pas deuxième dans mes pronostics. Je le mets carrément troisième. Pour moi, c'est notre gagnante à nous que vous allez entendre après qui peut challenger Madame Monsieur. Allez, vas-y Fabrice, loue-nous Lisandro.
Non, mais il faut savoir que Lisandro a un public.
Exactement.
Hein, contrairement aux autres.
Exactement.
Et, de toute façon, c'est le jury qui va faire pencher la balance, qu'importe les millions de votants, s'il y en a des millions des votants. Mais je pense que les voix vont disperser, le jury va faire automatiquement pencher la balance, et on le verra très rapidement.
Si vous me permettez, ne surestimez pas quand même les artistes qui ont une notoriété. Hein. C'est un concours de chansons et le public ne s'y trompe pas. Hein. Et on a vu beaucoup de sélections nationales oui. où il y avait des artistes connus, oui. voire très connus, et qui ont été battus par des gens qui venaient des inconnus en fait. Hein.
Donc, c'est des pays qui s'intéressent plus à l'Eurovision que de la France.
Moi, je suis pas convaincu que vous surestimez le poids des fans de Lisandro. Hein. Moi, j'ai regardé les classements des ventes iTunes ce matin. Madame Monsieur était deuxième, juste derrière Mylène Farmer. La semaine dernière, Lisandro était sixième. Donc, je vous dirais, il faut tempérer ça. Et ce sont des publics différents. Le public de Madame Monsieur est un public plus adulte. Je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur les audiences. On n'en a pas parlé. Ou très peu. L'audience a été moyenne à 2,4 millions à la première demi-finale, 2 millions à la deuxième. Je pense que les audiences ne signifient plus grand-chose parce que le public qui regarde la télé un samedi soir est un public qui est plutôt un public âgé. Or, l'Eurovision aujourd'hui intéresse aussi les jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder ça en replay ou ils vont regarder les clips sur YouTube. Donc, on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Et je pense que le programme va séduire au-delà même du public habituel de France Télévisions parce qu'il faudra voter.
Okay. Réponse donc samedi prochain. En attendant, on va découvrir notre grande gagnante. Ah, pardon, il reste plus qu'une candidate en même temps.
Mais Ethan, comme d'habitude, on va la découvrir en musique. Je pense que c'est plus joli de découvrir
en musique. Allons-y.
Allez, écoute, montons le volume de Natasha Saint-Pierre qui vous a très bien représenté en 2001 et on découvre la gagnante pour nous.
Je sais tellement que l'amour passe.
Et oui, vous avez dû parler d'une certaine Emiliana lorsqu'on faisait nos pronostics. Vous dites, mais c'est qui cette fille? On n'en a pas entendu parler. C'est logique, puisque c'est elle qui a remporté notre sélection française Eurovision 69. Emiliana totalise 5 fois 5 points, 25 points. Donc, il n'y a pas photo. Pour nous, elle fait l'unanimité. Je vais tout de même. Alors, au niveau de la prestation, c'était bien. Même si elle pourrait un petit peu canaliser son émotion, on l'a senti très émue pendant la prestation et surtout après. Mais c'est parfait. Le titre est un titre qui a été notamment composé par Zazie. Et c'est pour ça que je mets là mon bémol, parce que je pense que nous sommes tous des fans de Zazie. Or, non. L'univers de Zazie est un univers très particulier. Et je ne suis pas convaincu que ce soit si évident. Mais bon, Christer Björkman lui a donné 12 points, donc c'est quand même une indication. Par ailleurs, on s'est déporté soit sur Lisandro, soit sur Igitt et Madame Monsieur. Et finalement, à ce petit jeu de se déporter un petit peu partout, c'est peut-être l'outsider qui, en totalisant tous les 10 et les 8, ce qui est le cas d'Emiliana, elle n'a aucun 12, pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Donc Emiliana et l'Outsiders, jamais première, toujours deuxième, ça nous fait penser à Jamala.
Oui. Oui, c'est vrai. bon, moi, effectivement, je crois qu'il n'y a que Ethan qui n'aime pas Zazie chez nous. Moi, je suis un grand fan de Zazie. On reconnaît bien sa patte dans cette chanson. C'est vrai que j'aime quand elle compose pour elle et qu'elle compose pour les autres. Bon, j'aime la plupart de ses chansons, hein. je suis pas là à vénérer tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle fait, mais en général j'aime bien. Là on reconnaît bien sa patte, on reconnaît bien son texte, la composition de Zazie, toute son équipe. J'étais pas au moment de l'enregistrement de la première de Finale à ce moment-là, au moment où Emiliana a commencé à chanter. J'étais pas très bien, j'avais mal au dos parce qu'on était debout pendant des heures et je commençais vraiment à fatiguer. Et j'étais allé pour aller m'asseoir dans un coin au fond et en fait, elle a commencé. Alors j'ai dévoilé un petit truc, elle a dû refaire son début parce qu'elle elle a pas fait du premier coup. Voilà. Et elle commence et en fait j'ai tout de suite accroché et puis le visuel qui était derrière, je fais waouh, c'est ça qu'il faut envoyer, ça me serait très bien, ça serait tout de suite accrocheur, jeu des lumières. Donc et j'aime de plus en plus cette chanson et je pense que même de la première demi-finale, c'est la seule que je retiens vraiment.
Et moi, je dois avouer, étant les seuls, que j'ai eu vraiment du mal à choisir ma favorite entre Emiliana et Lisandro. Et en plus, Ethan, il était surpris quand il a vu les 12 points pour Lisandro, parce que je pense qu'il s'attendait mes 12 points pour Emiliana. Tous les deux, ils m'ont fait pleurer. Enfin, bon, je l'avoue, j'ai un peu honte, mais quand je regardais la semaine dernière, la demi-finale 1 le dimanche, parce que moi, je ne l'ai pas vu en live, mais et les deux, ils m'ont beaucoup ému. Et Emiliana, je ne m'attendais pas justement parce que l'extrait me paraissait juste correct. Mais le live à elle, c'est impressionnant. Le cri à la fin, comme celui d'Alessandro, c'est parfait d'enlever. La réalisation, c'est très bien fait, simple, mais efficace. Franchement, original. En plus, moi, Zazie, comme Olivier, j'adore. Moi, si je vois Zazie à Lisboa, je vais être hyper content. Peut-être je vous demanderai Farouk de me prendre en photo avec Zazie pour une fois, parce que moi j'aime bien Zazie. Et voilà, donc content qu'il ait gagné, curieux qu'il n'a pas gagné notre classement Eurovision, parce que il n'a été la favorite des personnes, mais par contre il est la gagnante parce que tous les mots avoir adoré, tous les mots a donné 5 étoiles, et ça démontre que les classements 5 étoiles pour moi, Farouk, excusez-moi, des fois c'est plus représentatif de nos goûts plutôt que l'Eurovision, hein, parce que la preuve c'est que montre bien que tous avons adoré, et pour ça il a gagné, Ethan.
Ouais, et alors donc Olivier disait que je suis le seul à pas aimer Zazie, c'est vrai, et j'aurais jamais pensé un jour dire ça, mais en l'occurrence j'adore une chanson de Zazie. C'est un des meilleurs packages de cette sélection. La nana a une dégaine, c'est le moins qu'on puisse dire. La chanson est bien construite, bien mixée. Les paroles ne prennent pas trop de place. Genre, vous avez remarqué que je parle français, on s'en fout si ça sonne pas bien. Là, il se trouve que c'est en français, mais on n'en fait pas des caisses, quoi. Le cri à 2 minutes 10, là, apporte le côté waouh qui est nécessaire à une bonne chanson pour l'Eurovision. Et en plus, on se souvient aisément de l'air. Même après 26 chansons, beaucoup de gens seront encore capables de fredonner le refrain, je pense. Bref, pour moi, ce serait un assez bon choix.
C'est une très belle chanson. Et comme je dis, que ce soit Amy, Monsieur, Madame, Malo, Lisandro, Max, Cinnamon, que le meilleur l'emporte.
En tout cas, on désire une très bonne audience France 2. Au pire, un très bon résultat pour les chanteurs, au minimum un très bon résultat à l'Eurovision. En tout cas, les podcasts prochains, les 82, on connaîtra la chanson de la France et de l'Espagne et de la Tchéquie potentiellement, évidemment. Mais l'Espagne et la France, vous vous rendez compte, l'importance du podcast prochain, il faudra pas que vous le ratiez, parce que là, pour le coup, je crois qu'on va couper les podcasts, non? On a tous parlé. Et en vous laissant écouter la magnifique chanson d'Emiliana, OK, au chaos. Enfin, les autres, je dis au revoir de mon côté en tout cas.
Eh ben oui, on vous dit à très bientôt sur Eurovision 69 pour découvrir les résultats de ce Destination Eurovision 2018.
À bientôt. À bientôt.
Voilà, j'ai jusqu'au bout. Au revoir.
À bientôt. Au revoir à tous. Bonne finale.
Qui nous dicte nos choix? Le monde est ce qu'on en fera. Il sera OK ou KO.
qui décide.